Ben, bonjour à tutti, et va qui l'émission de l'association Ben Leo, as ben parla?
Maïté Casdi.
À la revue à notre émission, Chantal, en aime parla de qui?
Ah, c'est une devignole, hein?
Ah, c'est une devignole.
La seconde mi-temps, en aime parla de Koukereng, se passe au siècle des Yeucheng, pendant la seconde mi-temps. Dis-nous, Gévaudan, qui est actuellement à Lozère, et donc à l'époque, c'est un pays isolé, pauvre, un pays des pastres et des loups.
Ah, et des loups. Avant, on a écouté la famille Artus qui nous joue une petite trousse de musique, et après, on a la bête de Gévaudan.
À cette époque, donc la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la province dont on va parler, est presque quasiment rurale, enfin de manière générale la province. Mende, on est à Mende, la plus grande ville de notre province, compte 3000 habitants. Et le Gévaudan, parce que c'est du Gévaudan dont on parle, est alors divisé en quatre grandes régions, au sud les Cévennes et l'Écosse, et au nord l'Aubrac et la Margeride. Et dans la Margeride, une zone de montagne au relief arrondi, c'est là que sévit la bête du Gévaudan.
Eh ben qui ?
Le pays est rude, le climat froid et le sol ingrat. La pauvreté y est générale. Les paysans sont souvent menacés par la disette. Et ceux qui ont des propriétés suffisantes élèvent des petits troupeaux de moutons pour la laine, de bœufs pour la viande ou le labour, ou de vaches pour le lait. Et dans cette région, chaque été, des troupeaux de moutons transhumants viennent du Languedoc pour estiver sur les pelouses de la Margeride.
Donc, à cette époque, seconde mi-temps du siècle des Yeucheng, les enfants sont pas forcément scolarisés. Et à l'entour des 7 ans, il y a force qui commence de partir déjà les œuvres agricoles des Sidgens, surtout d'une famille nombreuse et pauvre qui sont justement nombreuses, les familles de force enfants. Faisaient même la garde des animaux domestiques à d'enfants de 13 ou 4 ans, pichonnés, sous la surveillance des six frères et sœurs et maigrants, à quels ils jouent une pastre et pastresse serré campo per ameu ou per village, per garder les troupeaux sur la propriété des sidgens ou des pastures collectives qui appartiennent à l'ancien des villages. Faut dire qu'à cette époque, les enfants sont mal pichots que eux. Ainsi, entre 6 et 14 ans, sa taille est entre 1 mètre et 1 mètre 40. Et dans des régions comme la Margeride, soumises à la malnutrition, les enfants ont des tailles inférieures à la médiane. À cette époque, les loups sont force nombreuses dans les campagnes. Les paysans custègent régulièrement les loups. Un peu de loups enrabillés, mais pas trop de loups ordinaires, c'est-à-dire à quelque s'attaque les animaux domestiques, car l'animal a peau de l'homme.
Et l'affaire de la bête du Gévaudan va se produire en juin 1764, pour se finir en juin 1767, 3 ans. Dans cette histoire de la bête du Gévaudan, il y a deux temps. Le premier temps se déroule de juin 1764 à septembre 1765, un peu plus d'un an. C'est le temps des attaques les plus nombreuses et les plus terribles. Et à la fin de cette période, un gros loup va être tué et sa famille également. Le deuxième temps, ce sont les années 1766 et 67, avec une baisse notable des agressions. Mais au printemps 1767, il y aura une recrudescence des attaques.
En 1764, c'est le début des attaques d'une bête qui tue d'enfants et des femmes principalement. Mais la mitad des attaques vont provoquer des naufragures graves ou la mort. La première réaction de la population est de s'apparer armés d'armes improvisées et en faisant quand même appel aux caçaires qui vont travailler sous la direction des seigneurs locaux. Parce que ce sont aquelles qui ont théoriquement saoulé le droit de porter d'armes à feu. Mais enfin, force paysans riz, des bourgeois, des curats, ont elles también un fusil ou un pistolet.
Très vite, les autorités encouragent les chasseurs gévaudanais et favorisent l'utilisation du poison. Dès la multiplication des attaques, le pouvoir monarchique intervient pour mettre fin aux agressions. Et le pouvoir va offrir des primes aux chasseurs, primes qui atteignent un total de 10 600 livres, dont 6 000 de la main du roi. Et cette somme est énorme car elle correspond à 30 années de salaire d'un ouvrier agricole qui travaillerait tous les jours. Du coup, de nombreux chasseurs étrangers au Gévaudan viennent essayer de tuer le loup dans le Gévaudan. Mais ces premières mesures s'avèrent vite inefficaces. Je rappelle que l'affaire a commencé en juin 1764 et 4 mois après, en novembre 1764, les autorités font appel à l'armée. L'armée, c'est les dragons qui sont commandés par le capitaine Duhamel. Mais les conditions climatiques sont dures et Duhamel et ses hommes ne parviennent pas à mettre fin aux attaques mortelles de la bête du Gévaudan. La multiplicité des attaques affole les populations. Est-ce qu'il s'agit d'un lion ? Est-ce qu'il s'agit d'un loup-garou ? D'un homme déguisé en loup ? D'un sorcier ? D'un ours ? Bref, ça s'affole.
La situation est à la même grève qu'en février 1765, le roi mande des caçaires des loups professionnels, c'est-à-dire des louvetiers. Ce sont des gentilshommes normands le Deneval, le père et le fils, ajuda per sieican limier et mantu un tiraire, et malheureusement, s'entendon pas à Méliduamel et obtenon sa partenza. Mais elles también sont suspresses per l'outen, la fraie, la neu, la pleuille, la neble, dins le Gévaudan et dins son relief. Et sont obligées, elles también, de recourir et y battues de collectives que m'expressavons, réquisitionnant les paysans qui, en même temps, ne peuvent pas travailler à l'itère. Et mai, les battues dévastent les camps. Et donc, les Normands sont impopulaires.
Et voilà. Et donc, les Enneval, ben, eux aussi vont échouer à éliminer le loup du Gévaudan. Et du coup, Louis XV envoie dans le Gévaudan son porte-arquebuse, François-Antoine, qui est lieutenant des chasses royales. Donc, les Enneval partent, hein, quittent le Gévaudan, 5 mois après leur arrivée, ils ne sont pas restés longtemps, en juillet 1765.
François-Antoine et son fils, Antoine de Beauterne, s'installent dans la région du Mont Mouché, où se concentrent des mailles à mailles des attaques de la bestie. Ils sont accompagnés de 14 tireurs expérimentés, mais au contraire de ses prédécesseurs, ont de bonnes relations avec les autorités locales et la population, et donc mettent fin à l'empoisonnement des cadavres humains. Pratiqua per Duhamel per attirer la bestie, multipliquent les fosses à loups et diminuent le nombre des battues collectives per pas abénat les cultures. Enfin, répartissent les hommes per douce dans les hameaux ou dans le mouché et demandent maille de chez limier. Le 21 d'avoust 1765, pendant une battue de ménade per Antoni, un gros loup, que pensait anthropophage, estua. Ah, hélas, les carnages, les chapelets reprennent.
Et voilà, hein, les carnages reprennent, les chapelets. Et le 18 septembre 1765, un gros loup est encore signalé à Antoine, mais en dehors du Gévaudan, en Auvergne. L'équipe d'Antoine tue ce loup énorme quelques jours après. Son fils présente la dépouille du loup aux autorités à Clermont-Ferrand. L'animal est embaumé et présenté au roi. Et pour le pouvoir et la presse, on est enfin délivré de la bête féroce qui pendant si longtemps a désolé le Gévaudan et l'Auvergne. Antoine est auréolé de gloire et pour la monarchie, l'affaire est close.
Période, à la début de décembre 1765, les attaques reprennent. À cette cause, sont les Cassaires et les Caux qui interviennent, toujours sous la conduite du noble Gévaudanès, qui est le plus important, est le marquès d'Apcher. Les casses de 1766 sont infructueuses, mais le nombre d'agressions baisse. À la prime de 1767, les agressions tournent à mailles augmentent. Donc, On a relancé les battues, dispersé les cadavres en pousouna d'animaux domestiques à Questeco. Et le 19 de juin 1767, pendant une grande battue de 1330 hommes, organisée par le marquis d'Apcher, Jean Chastel va tuer d'un coup de fusil un loup fort énorme que sa femelle sera abattue 13 jours après.
Et voilà, enfin, les attaques vont cesser définitivement. C'est la fin de l'affaire de la bête du Gévaudan, bien que les loups demeurent présents dans la province. Un historien de la bête, l'abbé Pourchet, écrit 100 ans plus tard, en 1889, alors je cite, « Quand la bête lui arrive, Chastel lisait les litanies de la Sainte Vierge. Il la reconnut fort bien, mais par un sentiment de piété et de confiance envers la Mère de Dieu, il voulut finir ses prières. Après, il ferma son livre, il plia ses lunettes dans sa poche et prit son fusil. Et, à l'instant, tua la bête qu'il avait attendue. »
Brave.
Voilà, bien sûr, cela n'est qu'une légende. Enfin, en tout cas, la dernière histoire qu'on vient de raconter, parce qu'en fait, il n'y a aucun document qui n'existe à ce propos.
Alors, il existe une anecdote. L'histoire de Jacques Portefeuille, le courageux pitcho pastre, à propos de cette bête. Une histoire qui est rapportée par le curat de la paroque de Chanaleil. Le 12 de janvier 1765, cet enfant de Villeray et de Miel, Sindrol et d'autres chattes qui gardaient le bétail sous une des plus hautes montagnes de Gévaudan sont attaqués par la bestie. Les Sindrol, il y avait Jacques Portefeuille, 12 ans, Jacques Couston, 12 ans, et Miège, Jean-Pic, 12 ans, Joseph Panefieux, Yetchan et Miège, et Jean Verrier, Yetchan. Les deux chattes, Madeleine Chaus, 9 ans, et Jeanne Guéfier. À ces enfants, ils ont un macadune d'une baston, au bout de cas, avien attaqué une lame de fer punchude. Et malheureusement, aperçu la bestie qui, lorsque court fugué, proche d'elle.
Alors, les enfants se rassemblèrent, bien serrés, et se mirent en défense. Portefeuille, qui les dirigeait, se plaça sur le devant avec Couston et Pic, les garçons de 12 ans. Il mit les filles au second rang et derrière elles, les deux petits. La bête s'approcha et fit le tour du petit groupe. Elle saisit à la joue un des plus petits, Joseph Panefieux. Alors les trois plus grands fondirent sur elle, la piquèrent, mais ne purent pas lui percer la peau. Cependant, ils réussirent à lui faire lâcher prise. La bête se retira, emportant une partie de la joue de Joseph, qu'elle mangea devant eux.
Vengue tourna main et les attaqua, et renversé d'un coup de moure, l'oumaine jaune, Jean Verrier, et l'onafré d'un coup d'édain et l'abre. Les 13 mailles grands garçons, les droulas, rébutèrent la bestie. Mais, per le 13e coup, la bestie, ronçait sur le maille picho drôle, l'alagante à mes la goule, per le bras, et l'emportait. Alors, toute la troupe y est corriguée après, encouragea per Portefeuille. Lucas faguait passer Couston d'un Cousta, et ou de l'autre, per que la bestie passe à travers une fangasse qui est située à 50 pas d'elle. La bestie s'engageait vis-à-vis fangasse, et Fuguet resta donner sa course. Portefeuille, qui courait vers la bestie, criait à ses camarades qu'il fallait délivrer le pitcho verrier ou mourir tout à mieu. Criait aux autres enfants qu'il fallait attaquer le loup à la tête, aux yeux et à la goule.
La bête tenait toujours sous sa patte l'enfant qu'elle avait saisi, mais elle n'eut pas le temps de le mordre étant occupée à éluder les coups qu'on cherchait à lui porter. Au dernier coup que Portefeuille lui porta, la bête fit un saut en arrière, laissant le petit verrier dans le bourbier. Portefeuille se mit alors entre la bête et le petit, qui s'accrocha derrière la bille de celui-ci. Alors, la bête se retira et prit la fuite.
L'esprit de caoutchouc une porte fée fut qu'éconnu et Louis le 15 le récompensait en le pensionnant comme pupille réel, ainsi pour ce qu'il ferait d'études à Montpellier.
Et on va qui donc à caoutchouc qui est courageux et qui a bien fait l'affaire.
Affaire de la bête du Gévaudan, c'est qu'elle a duré déjà de 1764 à 1767, donc c'est long. Elle, cette bête a agressé près de 350 personnes et en a mangé une centaine d'autres. Elle les a mangées. Les deux tiers des personnes tuées avaient entre 5 et 15 ans. Et pour la plupart, bien sûr, c'était des petits gardiens de bétail. Le tiers restant concerne des adultes et principalement des femmes qui étaient sans défense ou attaquées par surprise.
Vaki. Le gaubi.
Plus léger.
Mais léger. Le bestiari. Savez ce que veut dire le bestiari?
L'ensemble des bêtes.
Vaki, l'ensemble des bêtes. Oui, d'accord, d'accord. Et une bestiassade. Savez ce qu'est une bestiassade? Regarde mes loups à qui on a fait une bestiassade. Ou alors on pourrait dire une bestialade.
Une bêtise?
Vaki, une grosse bêtise. Une grosse bêtise. Une azenade, c'est dit en bien. C'est dit
en
bien une azenade. Et alors, comment on dit? C'est une brute. Celui-là, c'est une brute.
Une bestiasse?
Oui, est une bestiari. Un bestiaire, c'est une brute. Et est-ce bestie comme une toupine ou alors disait est-ce bestie comme un esclos, ou comme une piotte, ou comme une auque, ou comme une calosse.
Ben, il y en a des besties.
Et oh, il y a des besties. Alors, avec la chauve-idée, bestie comme une toupine, va qui. Et il y a une expression también qui s'est dit regarde-loup quand est saoulé, ça ou la bestie qui nous mène.
Alors, ça veut dire quoi? Quand il est seul.
Regarde-loup quand t'es saoulé, ça ou la bestie qui mène. Eh bien, ça veut dire qu'il est un simple d'esprit, quoi. Il sait qui mène.
Ah, c'est pas évident.
Et si c'est un bel faillot, ça veut dire ce que vous dire?
Non, j'ai pas compris.
Si c'est un bel faillot, ça veut dire que tu es bien bête, hein. Tu es bien bête.
Un beau haricot,
un faillot,
un bel haricot.
Alors. Et per acaba, ben, tout est douce, à l'aise mes failles venir cabre.
Ah,
laisse mes failles venir cabre.
Ah, c'est dur.
Ça veut dire, en français, on dit tu me feras tourner en bourrique.
Oui, d'ailleurs, tu as raison.
Eh bien, je vous propose d'écouter encore une petite canson. Donc, le groupe qu'avait entendu, à qui, là
Tout le long, c'était un seul groupe de musique.
Va qui. Famille Artus, donc, et Artus qui a un prénom, n'est pas même parler un jour. Et donc, on a écouté Lou Merlot, père famille Artus. Qui donc arrivait à la fin de notre émission avait parlé d'une poulie de bestie. Hein?
Poulie de ça pas. Hein? Non, l'histoire est affreuse avec la joue arrachée, mangée.
Méchante bestie, hein? La bestie de Gévaudan. Okay. Donc, era l'émission de l'association Ben Léo et de l'Institut d'Études Occitanes de la Vaucluse. As ben parla!
Maïdé Casdi!